C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP.
Ce mois de novembre, c'est le mois sans le tabac. C'est un slogan, il y a beaucoup d'interviews, il y a beaucoup de communication dans différents médias. Et nous aussi, nous avons voulu, pour vous, nos auditeurs, parler de cet aspect addictologie, comment on peut devenir dépendant de tabac. Et pour discuter sur ces questions, on a eu vraiment surprise d'avoir réponse favorable de vous, docteur Francesco. Léo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin tabacologue et responsable du centre de sévrage.
Oui, je suis en fait chirurgien thoracique et tabacologue. Et en fait, je commençais à m'occuper de la tabacologie justement parce que on avait besoin de sévrer les patients avant les interventions sur le poumon, et donc la nécessité d'acquérir de la compétence dans ce domaine.
Quand je vous ai posé question, est-ce que vous travaillez à l'hôpital des Périgueux, la réponse était oui, je travaille pour l'hôpital de Périgueux, mais actuellement je suis à Turin, en Italie, et ouais. Apparemment vous donnez vos consultations, vous travaillez en distance depuis un an.
Disons que oui, j'ai travaillé au centre hospitalier du Périgueux jusqu'en août 2020. Et après, j'ai une proposition, donc j'ai une mutation professionnelle et actuellement je travaille en Italie. Et cela n'a pas empêché de continuer à coopérer avec le groupe de tabacologie de l'hôpital, qui est un groupe très motivé et super performant. Et donc, moi, je continue à coopérer avec eux avec grand plaisir.
Donc, vous donnez les consultations en visio, en distance.
Disons que ce n'est pas vraiment des consultations que je fais. On fait un travail d'organisation, de planning des activités. Et des fois, je m'occupe de faire des formations à distance. Par exemple, la semaine dernière, on a fait une formation pour l'IREPS Guadeloupe qui nous avait demandé de faire une formation spécifique sur le sévrage tabagique.
Pour vous, docteur, est-ce que, on va dire, dépendance au tabac, c'est une addiction ou non?
Ah oui, sans doute. Le tabac, c'est la substance qui génère peut-être le plus d'addiction avec la moindre exposition. On commence à devenir accro à la cigarette au bout de 5-6 cigarettes. Donc, c'est sûr qu'il y a une dépendance physique qui s'installe très rapidement. Mais ce n'est pas vraiment là le problème. Le problème, c'est un peu dans la dépendance psychologique, parce que celle-là, c'est plus difficile à dépister et c'est plus difficile à traiter.
Donc, il n'y a pas que cette fameuse cigarette qui est en faute. Il y a les autres processus beaucoup plus complexes qui sont engendrés dans le corps de personnes.
Oui, c'est très complexe d'un côté. Mais de l'autre côté, si vous voulez, c'est très simple, en fait. Parce que si vous pensez à comment le cerveau marche, en fait, dans le cerveau de chacun, il y a deux cerveaux différents. Et il y a un cerveau automatique, un cerveau émotionnel, très rapide et très performant, qui est branché tout le temps. Et en fait, le besoin de cigarette vient de ce type de cerveau-là. Ça sert pour gérer les émotions négatives, pour gérer les moments de stress, etc. Et par contre, il y a un cerveau logique, un cerveau réfléchi, un cerveau adulte qui est beaucoup plus paresseux et qui marche beaucoup plus lentement. Donc, en fait, dans la dynamique des fonctionnements de ces deux cerveaux-là, le côté automatique est, disons, entre guillemets, enfant, et c'est lui qui est le plus rapide. Et si on ne le gère pas, il prend le pouvoir. C'est la raison pour laquelle, quand vous discutez avec les fumeurs, ils vous disent « mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas quitter le tabac. C'est impossible pour moi. » En fait, ce n'est pas vrai. Ça, c'est la réponse du gamin qui se dit « moi, j'ai besoin de mon plaisir. Ça ne m'intéresse pas de la santé, du risque, le cancer, etc. Je n'ai aucun intérêt à tout cela. Je ne veux pas, je ne peux pas. » En fait, et jusqu'à quand on reste à ce discours un peu basique, un peu, entre guillemets, d'enfant, effectivement, on ne peut pas en sortir. Sauf que quand vous arrivez à brancher le côté adulte et qu'il va avoir une réflexion, il va se dire, attends, non mais, j'ai fait des choses beaucoup plus difficiles qu'arrêter de fumer quand même. Donc, je vais gérer. Et à partir du moment où ce côté logique adulte se branche, il prend la décision et le côté enfant s'adapte. Et c'est la fin du conflit. C'est pour cela qu'en fait, quand vous arrêtez de fumer, si vous vous sentez en conflit avec vous-même, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça veut dire que vous êtes en lutte avec cet enfant-là et cet enfant, il va par définition à gagner. Donc, le bon moyen pour s'arrêter, ce n'est pas de rentrer en lutte avec l'enfant, parce qu'en fait, l'adulte, quand il établit des règles, il ne rentre pas en conflit avec l'enfant. Il se dit, tu te couches à 8 heures, et l'enfant, il se couche à 8 heures, point. Bien sûr, au départ, il fera des caprices. C'est la raison pour laquelle, au moment où on arrête de fumer, bien sûr, on a cette sensation de tension, cette sensation d'être poussé vers la cigarette, mais c'est à l'adulte de gérer. Donc, c'est pour cela que arrêter de fumer, ça ne doit pas être une lutte, ça doit être une découverte. Une découverte qui, pendant des années, on s'est un peu dit n'importe quoi. Et on a cru à ce côté enfant qui nous a toujours balancé les mêmes réflexions.
Vous parlez de côté positif, découverte, décision, mais finalement, apparemment, c'est assez difficile. Je ne sais pas, je ne suis pas une fumeuse, mais pour ceux qui vraiment prennent la décision, le chemin n'est pas assez simple.
Et là, vous avez touché le bon mot. Ça veut dire décision. Le parcours n'est pas du tout difficile à partir du moment où on a pris la décision. Tout le parcours qui peut être un peu plus compliqué, c'est d'arriver à prendre cette décision-là. Mais je peux vous assurer que quelqu'un qui prend sa décision, même s'il fume 60 cigarettes par jour, il peut arriver à s'arrêter du jour au lendemain. Par contre, il y a un peu de... Il y a quelques règles à suivre, parce que sinon, on tombe dans les pièges de l'arrêt. Je vous fais un exemple banal, mais quelqu'un qui fume 20 cigarettes par jour va vous dire, bon, d'accord, arrêtez, moi je ne peux pas, je vais descendre à 5 cigarettes. C'est quand même mieux que 20 cigarettes par jour. Ça, c'est une piège de l'enfant. Ça, c'est une négociation. Si moi je décide de ne pas fumer, mais c'est zéro cigarette. Point. Ça, c'est de ne pas fumer. Sinon, c'est une réduction de la consommation, qui en soi, c'est pas mal. Mais mon objectif doit être l'arrêt du tabac. Donc, chaque réduction, etc., c'est juste une négociation. Et cet effet de négocier, il va vous mettre au même niveau de l'enfant. Et donc, on va forcément rentrer en conflit avec cet enfant et ça va devenir hyper compliqué d'arrêter. Si on a pris la bonne décision, c'est-à-dire si on a décidé de s'arrêter, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de monde arrive à arrêter sans avoir besoin d'une consultation de tabaco, sans avoir besoin de patch, etc. Donc ça existe, ça. Le problème, c'est de travailler sur la décision.
Et côté physiologique du corps, parce que le corps qui était habitué à recevoir sa dose de nicotine, comment il réagit à cette décision d'un adulte?
Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est vraiment physiologique. Ça veut dire que la nicotine qui est contenue dans les cigarettes, elle crée une vraie addiction physique. Donc, quand on arrête d'un coup la nicotine, c'est vrai qu'on peut avoir un syndrome de mini-syndrome de sevrage qui dure, disons, une dizaine de jours. Et c'est la raison pour laquelle, au moment de l'arrêt, d'habitude, on donne de la nicotine par des patchs, par des comprimés, pour éviter cet effet de manque physique. Ça, c'est la vraie dépendance physique à la nicotine. Mais après, il y a toute la dépendance psychologique qui va vous faire ressentir des choses qui sont peut-être des fois de l'anxiété, des émotions négatives, du stress, etc. Mais qui ne viennent pas directement du physique, mais qui sont liés à la réaction de stress que la peur d'arrêter va déclencher. Et c'est pour cela qu'il faut arriver à l'arrêt sans avoir peur. C'est pas un truc dangereux, c'est pas quelque chose qui va vous mettre à risque. Au contraire, c'est quelque chose qui va dans le sens de votre santé.
Et cette côté gestuel, docteur, parce que souvent, fumer une cigarette, prendre une pause, être parmi les amis, discuter, ou tout simplement peut-être en prenant le café, ou en regardant telle et telle émission. Voilà, tout ce côté-là, c'est aussi comment la personne doit faire face. Est-ce que vous avez des conseils?
Oui, bien sûr, parce que c'est ça qui va rendre difficile le sevrage, en fait, d'anticiper les difficultés. Et effectivement, quand vous, toutes les situations que vous mentionnez sont des situations dans lesquelles, si vous y pensez, on est un peu comme le chien de Pavlov. Ça veut dire, on s'est conditionné que une bonne pause, c'est de prendre du temps pour soi, et quand on fait une pause, on fume. Et donc, on considère que le bonheur de la pause, à la fin, est lié à la cigarette. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Et c'est pour cela que c'est une découverte, parce que vous allez à découvrir que de faire votre pause sans la cigarette, bon, c'est bien aussi. De passer une soirée avec les amis sans être obligé de sortir à fumer dehors au foin, mais c'est très agréable, même si vous ne fumez pas. Donc, toutes ces liaisons-là que l'enfant, il va vous mettre en avant pour te dire, mais tu peux pas arrêter. Les soirées, elles vont être minables. Tu vas passer du temps pas amusant de tout, etc. Mais tout cela, ce n'est pas vrai. C'est pour cela que je vous disais, c'est une exploration, parce que ça va vous prouver par des faits que vous pouvez passer des bons moments en soirée avec les amis, etc., sans être obligé pour cela à fumer. Par contre, tout cela, ça doit être préparé. Parce que sinon, on se retrouve dans des situations de difficulté. Par exemple, en soirée, quelqu'un qui a arrêté de fumer depuis une semaine, etc., c'est encore très frais, très récent comme sevrage, et il retrouve quelqu'un qui lui offre une cigarette. Alors là, il faut avoir déjà préparé cette situation et dire non, et dans cette situation-là, moi, je branche le côté adulte et je dis non. Parce que l'enfant, il va dire oui, d'accord, on est en soirée, on va se faire une, bon, peu importe, après, on ne fumera pas, mais c'est une parenthèse. Non, c'est là où il faut préparer la situation, se dire je vais sortir, je vais être exposé à des situations un peu à risque de rechute et je vais éviter de me retrouver là-dedans.
Ouais. Voilà, je voulais aussi, comme vous avez fait comparaison entre cet état d'adulte et d'enfant, mais il y a aussi nos adolescents qui découvrent ce tabac, qui montrent un petit peu aussi leur passage à ce monde des adultes, un petit peu peut-être aussi l'aspect de virilité, d'anticipation, voilà, et tout ça. Qu'est-ce que, voilà, est-ce que le jeune qui commence juste par curiosité à fumer la cigarette avec les copains, est-ce que eux aussi peuvent devenir addicts?
Et oui, et c'est bien là le problème, parce qu'en fait, vous avez mentionné vraiment le point de départ, c'est 80% de fumeurs, ils vous décrivent exactement la première cigarette de la même façon. Ils vont vous dire, moi j'ai commencé à l'âge de 13, 14 ans, pendant les pauses, etc. C'était dégueulasse. Donc ça prouve bien qu'ils ne vont pas continuer à fumer pour le plaisir en soi de fumer, mais ils vont continuer à fumer par apprentissage social, parce que les autres y fument. Par contre, dans l'évolution de leur vie, après, ils vont terminer l'école, ils vont se retrouver seuls, ils vont vivre les expériences de la fac, du travail, etc. Ils vont associer le tabac à la gestion des difficultés. En fait, on pourrait dire qu'on devient vraiment fumeur quand on se retrouve à fumer tout seul, parce que c'est là où le côté social n'est pas là, et pourtant, on a ancré une habitude dans la vie de tous les jours.
Ouais. Donc, quel conseil vous pourrez donner en grande ligne pour ceux qui finalement diraient, voilà, il faut que j'arrête, que ce mois de novembre devient vraiment le mois sans le tabac?
Et c'est vraiment très simple, parce que si vous y pensez, admettons que vous êtes fumeur ou fumeuse, vous êtes en train de réfléchir sur le fait, bon, ça serait bien essayer, moi j'ai un peu peur, j'ai peur de ne pas arriver, etc. La réponse est très simple, qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous êtes fumeur, vous essayez d'arrêter, si vous y arrivez, c'est très bien, vous arrêtez de fumer, c'est un gros truc, ça. Donc, c'est hyper motivant. Si vous n'y arrivez pas, parce que ça peut arriver, peu importe, vous allez quand même apprendre quels sont les pièges qui vous font tomber. Et la prochaine fois que vous allez essayer de vous arrêter, parce que vous allez y arriver quand même, au bout d'un certain temps, vous n'allez plus à retomber dans les pièges. Donc, il y a ce cerveau dont je vous parlais tout à l'heure, ce cerveau enfant, il va vous tendre des pièges et qui sont tout à fait classiques. Par exemple, quelqu'un qui arrête de fumer, très probablement, au bout de quelques jours, quelques semaines, il va rêver de fumer. Et il va se réveiller en disant, tu vois, j'ai rêvé de fumer, c'est vraiment quelque chose de très profondément ancré en moi, je ne peux pas m'en défaire, voilà, tu comprends. Non. C'est un rêve. Combien de fois on rêve de trucs absurdes? C'est pas parce qu'on rêve d'un truc absurde que le truc absurde se passe vraiment. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, il faut prévenir le fumeur. Si cela arrive, peu importe, c'est normal. Deuxième réflexion typique, piège de l'enfant, c'est de se dire, ouais, tu as arrêté de fumer. Là, ça fait une semaine que tu fumes pas. D'accord. Mais tu te vois d'ici un mois à ne pas fumer? D'ici à 6 mois à ne pas fumer? Non. Tu vas rechuter, mais forcément. Alors, quoi bon avoir tout cet effort, cette fatigue pour ne pas fumer aujourd'hui si tu vas rechuter? Donc, voilà, refumons. Ça, c'est une piège. Projection dans le temps. L'enfant essaie de vous faire tomber. La bonne réponse est de l'adulte qui va lui dire, écoute, mon gars, aujourd'hui, tu fumes pas. Demain, on s'en occupera demain. On ne se projette pas dans le temps. Donc, c'est pour cela que la consultation de tabaco, ça peut être utile, parce que ça permet de, disons, anticiper des difficultés, qui sont les difficultés qui, généralement, font tomber dans le piège le fumeur. Et dès que le fumeur a refumé une première cigarette, il va se dire, bon, bah, j'ai refumé, alors bon, tant pis, hein, je reprends, je rachète un paquet, je recommence. Non, vous avez refumé une cigarette, c'est pas grave, ça suffit d'en discuter, de trouver le mécanisme piège qui vous a eu et de travailler là-dessus.
En vous écoutant, docteur, tout paraît très simple. Mais
Oui.
merci quand même de nous avoir donné tous ces conseils. Et on espérera que tout ça sera très bénéfique pour ceux qui vont prendre cette décision. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes médecin tabacologue, responsable du centre de sevrage, d'unité de tabacologie à l'hôpital de Périgueux. Et on a fait cette interview en visio, et on va dire en audio en distance plutôt, parce qu'actuellement vous êtes à Turin, en Italie. Et on vous dit grand, grand merci, docteur Francesco Leo.
Merci à vous pour l'invitation.
Thank you.